mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Catherine.
Bienvenue aux auditeurs.
Je souhaite revenir cette semaine sur un point délicat de l'anthropologie mimétique. Nous avons vu que le mimétisme engendre des crises dans les communautés. La théorie girardienne formule que les communautés qui ont survécu à ces crises l'ont fait en immolant un bouc émissaire. Or, cela demande que la communauté tombe d'accord sur la victime à sacrifier, alors qu'elle est justement déchirée par les antagonismes. Comment peut-on se mettre d'accord alors que chacun voit tous les autres comme des ennemis ? Girard décrit la crise mimétique en reprenant au philosophe anglais Thomas Hobbes la formule « la guerre de tous contre tous ». Il utilise une formule du même ordre pour décrire l'unanimité qui préside au lynchage du bouc émissaire, « tous contre un ». Notre thème du jour sera donc de comprendre comment les communautés en crise passent du « tous contre tous » au « tous contre un ».
J'imagine que Girard a lui-même approfondi la question.
Oui, mais pas autant que l'on pourrait le souhaiter. Au point que l'un des disciples de Girard, Benoît Chantre, considère que cette question du passage de tous contre tous à tous contre un est un angle mort de l'anthropologie girardienne. Mais nous pouvons développer un peu la piste que nous donne René Girard à ce sujet. Cette piste fait l'objet d'un chapitre de son ouvrage « Je vois Satan tomber comme l'éclair ».
Juste une incidente, Jean-Louis, avant que nous n'abordions le sujet. Que signifie ce titre « Je vois Satan tomber comme l'éclair » ?
Il s'agit d'une citation biblique. Pour René Girard, Satan est le personnage symbolique qui représente la face sombre du mimétisme, celle qui conduit à la rivalité, à l'envie, à la haine et à la violence. Il pensait qu'en révélant le rôle anthropologique fondamental du mimétisme, cela permettrait à l'humanité de se détourner de sa face sombre, c'est-à-dire de mettre Satan à distance. Mais revenons à notre question du jour. Par quel mécanisme les tensions et les hostilités propres à une crise mimétique se cristallisent-elles brusquement sur une personne qui va devenir alors le bouc émissaire ? Pour nous donner une idée de ce mécanisme, Girard cite et analyse un épisode de la vie d'un gourou célèbre du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est le chapitre 4 de son livre « Je vois Satan tomber comme l'éclair », chapitre intitulé « L'horrible miracle d'Apollonios de Tyane ».
Peux-tu nous raconter cet épisode ?
Je vais tout simplement lire le récit établi par l'historien grec Philostrate. La peste ravageait la ville d'Éphèse. Elle implore alors Apollonios de la délivrer de ce mal, et voici ce qu'il répond. « Aujourd'hui même, je vais mettre fin à l'épidémie qui vous accable. » Il conduisit alors le peuple au théâtre où une image du dieu protecteur était dressée. Il vit là une espèce de mendiant qui clignait des yeux comme s'il était aveugle et dont la bourse contenait une croûte de pain. L'homme vêtu de haillons avait quelque chose de repoussant. Aux Éphésiens disposés en cercle autour de lui, Apollonios dit « Ramassez autant de pierres que vous pourrez et jetez-les sur cet ennemi des dieux. » Les Éphésiens se demandaient où ils voulaient en venir. Ils se scandalisaient à l'idée de tuer un inconnu, manifestement misérable, qui les priait et les suppliait d'avoir pitié de lui. Revenant à la charge, Apollonios poussait les Éphésiens à se jeter sur lui, à l'empêcher de s'éloigner. Dès que certains d'entre eux suivirent ce conseil et se mirent à jeter des pierres aux mendiants, lui, que ses yeux clignotants faisaient paraître aveugle, leur jeta soudain un regard perçant et montra des yeux pleins de feu. Les Éphésiens reconnurent alors qu'ils avaient affaire à un démon et le lapidèrent de si bon cœur que leurs pierres formèrent un grand tumulus autour de son corps. Après un petit moment, Apollonios les invita à enlever les pierres et à reconnaître l'animal sauvage qu'ils avaient mis à mort. Une fois qu'ils eurent dégagé la créature sur laquelle ils avaient lancé leur projectile, ils constatèrent que ce n'était pas le mendiant. À sa place, il y avait une bête qui ressemblait à un molosse, mais aussi grosse que le plus gros des lions. Elle était là, sous leurs yeux, réduite par leurs pierres à l'état de bouillie et vomissant de l'écume à la façon des chiens enragés. en raison de quoi on dressa la statue du dieu protecteur Héraclès à l'endroit même où le mauvais esprit avait été expulsé.
Quelle histoire affreuse ! Je comprends le titre de Gérard. En quoi cette histoire nous éclaire-t-elle sur cette fameuse question du passage du « tous contre tous » au « tous contre un » ?
Cette histoire est l'exemple d'un tel passage, et le récit souligne le rôle d'un ingrédient essentiel pour que ce passage se produise.
Quel est cet ingrédient essentiel au passage du tous contre tous au tous contre un ?
C'est la présence même d'Apollonios. Sans lui, aucune lapidation n'aurait eu lieu. Au début, les habitants d'Éphèse sont réticents à jeter des pierres sur un malheureux. Apollonios doit mobiliser toute son éloquence pour que les haines convergent vers le pauvre mendiant.
Pourquoi dis-tu qu'il y a des haines à faire converger ?
Parce que la peste accable la ville. Tout le monde se méfie de tout le monde. Chacun peut être suspecté d'être porteur du mal. Pire encore, dans la mentalité de l'époque, une épidémie de peste est interprétée comme un châtiment divin. C'est donc que la ville cache un coupable. Mais qui ? Coupable de quoi ? Personne ne le sait. Voilà pourquoi les Éphésiens sont pris par l'angoisse, la culpabilité et la haine.
Effectivement, ce récit est bien celui d'un passage du tous contre tous à tous contre un. Et c'est bien Apollonios qui est l'artisan de ce passage. Une question cependant, pourquoi lui est-il difficile de déclencher le lynchage du mendiant si la ville est tenaillée par la peur et la haine ? Cela ne devrait-il pas démarrer au quart de tour ?
Apollonios a du mal parce qu'il est toujours difficile d'être le premier à faire quelque chose, comme de poser la première question à la suite d'une conférence. Personne n'ose se lancer. C'est un phénomène fondamental que l'anthropologie girardienne explique parfaitement. Faire quelque chose pour la première fois implique que celui qui l'a fait n'a pas de modèle, puisqu'il est le premier. Dans la perspective de Girard, nous agissons principalement par mimétisme, c'est-à-dire qu'il nous est difficile de passer à l'action en étant privé de modèle. Girard a fréquemment commenté l'épisode évangélique de Jésus sauvant la femme adultère de la lapidation. Une foule amène devant Jésus une femme convaincue d'adultère. Les pharisiens et les scribes cherchent à piéger Jésus. Devons-nous lapider cette femme ainsi que la loi le prescrit ? Si Jésus dit oui, il laisse la violence s'exercer contre la femme, alors qu'il ne cesse de condamner la violence. S'il dit non, ce qu'espèrent les pharisiens, il ne respecte pas la loi. En répondant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, Jésus parvient à la fois à sauver la femme de la lapidation et à ne pas se prononcer contre la loi. Comment y parvient-il ? Il sait la difficulté que chaque membre de la foule éprouverait à être le premier, et il rend cette difficulté encore plus grande avec l'exigence qu'il pose, n'avoir jamais péché. S'il n'y a pas de premier, il n'y aura aucune lapidation. L'anthropologie mimétique est à livre ouvert devant nous. Au fond, l'épisode de la femme adultère est le parfait symétrique du soi-disant miracle d'Apollonios. Celui-ci a toutes les peines du monde à trouver un premier, mais quand ceux-ci sont trouvés, la foule se livre à la lapidation avec ardeur, mimétisme aidant. Jésus, de son côté, rend insurmontable de jouer le rôle du premier à envoyer une pierre, et cela suffit à éviter la lapidation.
Comment comprendre la suite de l'histoire d'Apollonios ? Une fois la lapidation commencée, les yeux enflammés du mendiant qui révèle un démon, puis la bête monstrueuse que les Éphésiens découvrent sous les pierres une fois la lapidation terminée ?
Il me revient une phrase de Paolo Coelho. Elle résume parfaitement ce qui se passe. « Je suis comme tous les autres. Je vois le monde comme j'aimerais que les choses se produisent et non comme elles se produisent réellement. » Les Éphésiens sont tellement désespérés par le règne de la peste qu'ils ne désirent plus rien d'autre que de croire en la nature démoniaque du pauvre mendiant. Celui-ci comprend qu'on va le lapider. Il suffit qu'un seul regard d'angoisse de sa part soit interprété par une personne comme le regard halluciné d'un démon. Par mimétisme, toute la foule sera convaincue d'en avoir vu un. Quant à sa dépouille après la lapidation, elle est dans un tel état qu'on peut y voir ce qu'on veut, pourquoi pas un chien enragé de la taille d'un lion. Tout le monde à Éphèse a besoin de croire que cette lapidation va délivrer la ville de la peste et de tous ses tourments. Dès lors, il faut que ce mendiant soit coupable.
C'est un processus terrible. Comment éviter qu'il se produise ?
Nous y sommes constamment exposés. Mais Girard nous donne une piste, celle de nous méfier de ceux qui sont prompts à désigner les coupables et qui cherchent à exciter les foules.
Ce sera donc le conseil du jour.
Au revoir Catherine, merci aux auditeurs de leur fidélité.
Au revoir Jean-Louis, et au revoir aux auditeurs.